22h sur Europe 1. Très belle soirée à tous. Et tout de suite, on fait un point sur le journal avec vous, Valentine Desjeunes. Bonsoir Valentine.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. 700 correcteurs qui retiennent encore 30 000 copies. L'angoisse des lycéens à la veille des résultats du bac, en pleine grève des correcteurs contre la réforme Blanquer. Vous entendrez le ministre dès le début de ce journal. La fête nationale aux États-Unis est pour la première fois un défilé militaire. Le président américain promet l'une des plus grandes célébrations de l'histoire du pays. Nous serons sur place dans un instant. Dans l'actualité également, le réquisitoire attendu demain au procès de France Télécom. Des Parisiens qui veulent de plus en plus aller travailler en région. La présentation des équipes du Tour de France à 2 jours du départ. L'ouverture ce soir du Festival d'Avignon. Côté météo, un vendredi ensoleillé, des température en hausse avec des pointes à 38 degrés à Toulouse, 35 à Bordeaux et Lyon, 31 à Paris et Strasbourg, 21 degrés à Dunkerque. On fera un point complet à la fin de ce journal avec Elena Morna. Et puis, comme chaque soir, à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Il reçoit ce soir Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, qui organise ce week-end les rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
Europe 1.
C'est donc encore l'incertitude ce soir à la veille des résultats du bac. 30 000 copies n'ont toujours pas été rendues par les 700 correcteurs grévistes. Le ministre de l'Éducation, pour l'instant, s'est montré plutôt rassurant tout à l'heure.
Ce soir, au moment où je vous parle, il n'y a plus que 700 correcteurs sur 175 000 qui ont décidé de ne pas rendre leurs copies. Ceci fait que le phénomène est désormais marginal, mais il est néanmoins gênant, bien entendu. Et pour compenser le problème créé, j'ai demandé au jury de bien vouloir prendre en compte la note correspondant au contrôle continu au cas où il y aurait une note manquante. Cela signifie que ce que je garantis à tous les élèves, et je le garantis encore ce soir bien sûr, c'est que tous les élèves de France qui ont passé le baccalauréat auront leurs résultats demain matin. Nous avons choisi la meilleure des solutions possibles eu égard aux circonstances. Face à ces circonstances exceptionnelles, il est normal de choisir la meilleure des solutions possibles.
Voilà le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer au micro Europe 1 de Virginie Salmen. Des précisions pas forcément de nature à rassurer les lycéens dont certains ont été prévenus dès ce matin.
On nous a dit qu'on a été touchés du coup par justement ces otages de copies. On sait juste que c'est deux jurys qui bloquent, mais on ne sait pas dans quelle matière, etc. Donc ça rajoute un peu du stress déjà pour nos résultats. On a un peu plus peur et c'est assez frustrant, quoi.
On est beaucoup dans le flou et c'est un peu comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On ne sait même pas comment ça va se passer parce que si on va être dans la liste des admis, mais avec un contrôle continu ou des choses comme ça, on est totalement dans le flou, on n'a aucune nouvelle. On peut comprendre, mais on trouve ça un peu injuste, entre guillemets, pour nous, ni pour rien en tant que lycéens.
On a juste envie que le bac, ça soit fini et qu'on passe à autre chose, quoi.
Voilà donc pour ces lycéens au micro Europe 1 de Jean-Jacques Herry. Quant aux personnes interrogées à la suite de fuites lors des épreuves du bac, 3 gardes à vue ont été levés ce soir. Les 4 autres se poursuivent.
Europe 1, le journal de la nuit. Valentine Desjeunes.
Nous sommes le 4 juillet, synonyme de fête nationale aux États-Unis. Donald Trump a promis aux Américains l'une des plus grandes célébrations de l'histoire du pays. Sonia Dreddy, vous êtes l'une des correspondantes d'Europe 1 aux États-Unis. Vous vous trouvez justement sur place au Lincoln Memorial, au milieu de la foule. Alors il y aura certes les parades et les feux d'artifice comme tous les ans, mais le président américain veut y ajouter une dimension militaire. Il avait été très impressionné par le défilé du 14 juillet à Paris. Hein.
Oui, et il y a une ambiance d'enfants avec une grande majorité de partisans de Donald Trump. On voit beaucoup de casquettes rouges avec le slogan du président « Make America Great Again ». Ils sont venus de tout le pays pour célébrer le 4 juillet à Washington avec cet événement inédit organisé par le président américain, inspiré par le 14 juillet en France. Trump prononcera un discours et il y aura un défilé aérien. Alors il y a pas mal de monde sur l'esplanade qui fait face au Lincoln Memorial. On ne peut pas dire qu'il y a encore une foule immense, mais il faut dire qu'il pleut à verse. Selon les prévisions, la pluie devrait s'arrêter juste avant le discours de Trump. En tout cas, tout est prêt. Des chars d'assaut sont exhibés sur le mall. Un drapeau américain est accroché au bas du Lincoln Memorial. Et il y a une tribune réservée pour les VIP. Des tickets ont été distribués à des donateurs républicains, ce qui fait gronder l'opposition. Elle accuse Trump de transformer la fête de l'indépendance en un meeting de campagne. Les Américains à qui j'ai parlé sont pour la plupart très enthousiastes. Ils trouvent que c'est une bonne idée qu'il y ait une dimension militaire. Une Américaine m'a dit qu'elle venait sur le mall comme tous les ans, mais qu'elle n'appréciait pas démonstration de force du président. D'autres ont décidé de ne pas venir cette année et sont furieux de voir une fête d'habitude apolitique accaparée, selon eux, par les Républicains.
Merci Sonia Dridi en direct de Washington pour Europe 1. Aux États-Unis, où la terre a tremblé ce soir en Californie, un séisme ressenti jusqu'à Los Angeles. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,4. Pas de dommages ni de victimes à déplorer pour l'instant. En bref, une embarcation a fait naufrage au large de la Tunisie. Plus de 80 migrants sont portés disparus. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 86 personnes étaient à bord. Seules 4 ont pu être secourues. L'une est morte à l'hôpital. Elle tentait de rallier l'Italie depuis la Libye. Dans l'enquête sur la mort hier d'une jeune femme enceinte de 3 mois en Seine-Saint-Denis, on a appris aujourd'hui qu'elle venait de déposer une main courante pour des violences de son compagnon, lui étant garde à vue. Il a reconnu un coup porté au visage. Selon le médecin légiste, le ou les coups n'ont pas à eux seuls provoqué son décès. La jeune femme serait morte d'une grossesse extra-utérine. Alors depuis le début de l'année, 70 femmes sont ainsi mortes sous les coups de leur mari, de leur conjoint. C'est ce que dénonce un collectif féministe dans une tribune publiée dans Le Monde. Collectif qui appelle le président de la République à prendre des mesures pour lutter contre ce fléau. Écoutez l'une des signataires, la comédienne et humoriste Muriel Robin.
Ces crimes ne sont pas une fatalité. Ils peuvent être évités. Donc il y a beaucoup de travail. Il faut identifier précisément les parcours et les manquements de ce qui a conduit au meurtre de 70 femmes. Parce que ce sont 70 assassinats. Et pour la plupart, il y a eu des dépôts de plaintes. Pourquoi on les renvoie chez elles alors qu'on sait que c'est là qu'elles sont plus en danger? Donc il faut vraiment une mobilisation d'urgence des services de police et de justice. Le bracelet électronique, il va bien falloir un moment le poser. Les autorités se trouvent dans une situation de non-assistance à personne en danger. Ce ne doit plus être dans la rubrique des chiens écrasés. C'est en Espagne, par exemple, c'est toujours en première page, en gros, très important. Un homme a assassiné une femme aujourd'hui.
Muriel Robin au micro de Sébastien Krebs tout à l'heure sur Europe 1. À Chambéry, une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort. Un homme d'une cinquantaine d'années est décédé hier lors de l'expulsion de sa famille de leur logement. La police des polices a été saisie. Écoutez les précisions de Laetitia Philippon, la directrice départementale de la sécurité publique de Savoie.
Le mari était excité, virulent. Il s'est opposé à l'expulsion. Il a menacé l'huissier. Dans son énervement, il a brisé des vitres dans l'appartement. Les policiers ont donc été contraints de maîtriser cet individu afin de calmer la situation. Il a alors été conduit dans un véhicule de police appelé en renfort. Il a manifesté aux policiers qu'il refusait de quitter le logement et d'aller dans le domicile. Donc il refuse de marcher. Mais lorsque les policiers le portent, cet individu leur parle. Il n'est pas inconscient. Et alors qu'il se trouvait dans ce véhicule, il a été pris de convulsions, il a fait un malaise. Donc les policiers l'ont rapidement sorti du véhicule, se sont rendus compte qu'il était en arrêt cardiaque. Donc ils ont procédé à un massage cardiaque en attendant les pompiers qui avaient été appelés en urgence.
La directrice départementale de la sécurité publique de Savoie au téléphone avec Guillaume Bien. Près de 2 mois d'audience et la fin qui approche dans le procès des anciens dirigeants de France Télécom. Ils sont jugés pour harcèlement moral après des suicides de salariés dans les années 2000. Le réquisitoire est attendu demain et il y a d'ores et déjà des motifs de satisfaction pour Patrick Ackermann du syndicat Sud, partie civile dans le procès.
Déjà, on a obtenu qu'il y ait un procès, ce qui n'était pas évident. Ça a remémoré beaucoup de souvenirs douloureux. Il avait une vertu pédagogique assez nécessaire, donc on est plutôt content. Les prévenus, dans la première partie du procès, faisaient preuve d'un déni assez outrageant, enfin vécu comme ça, en tout cas par les gens qui étaient dans la salle. Là, on sent à la fin quand même un frémissement, une évolution. Nous, en tout cas, ça a renforcé notre conviction qu'ils sont coupables et qu'ils vont être condamnés. Il faudra attendre sans doute le mois de septembre pour le verdict. Maintenant, l'ensemble des fédérations syndicales et des parties civiles ont pris contact avec la direction d'Orange et demandent d'ouvrir immédiatement des négociations sur la mise en place d'un fonds d'indemnisation conventionnel pour que les victimes puissent être indemnisées et qu'on puisse enfin tourner la page. Parce qu'au niveau des indemnités, on sait très bien que ce ne sera pas satisfaisant.
Dans le cadre de ce procès, en effet, la peine maximum encourue est de 1 an avec sursis 15 000 euros d'amende. Patrick Ackermann du syndicat Sud répondait à Chloé Triomphe. Le père Prénat défroqué et réduit à l'état laïque, celui qui est accusé d'agression sexuelle sur de jeunes scouts et qui avait déclenché l'affaire Barbarin, a été condamné à la peine la plus lourde que peut prononcer la justice de l'Église, à savoir le renvoi de l'état clérical. Le tribunal ecclésiastique justifie cette peine au regard des faits, de leur récurrence et au grand nombre de victimes. Restez avec nous dans un instant, la suite du journal, la réforme de la l'assurance chômage avec 500 000 chômeurs grands perdants. A tout de suite.
Le journal de la nuit, Valentine Desjeunes sur Europe 1.
La suite du journal, donc, et l'on reparle de l'assurance chômage. Vous le savez, c'est l'un des gros dossiers à venir pour le gouvernement et cette réforme va faire des perdants. On commence à y voir plus clair. L'UNEDIC vient de faire les comptes. Emmanuel Dutheil, un nombre significatif de chômeurs va être impacté.
Oui, je ne sais pas si vous avez bien en tête les principales mesures. On va commencer avec le durcissement des conditions d'entrée. À partir d'avril prochain, il faudra avoir travaillé 6 mois sur 24 mois pour avoir le droit au chômage. Avant, c'était 4 mois sur 28 mois. Une fois les droits ouverts, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois pour recharger ses droits contre un mois auparavant. C'est un très gros durcissement qui va permettre de faire de grosses économies. Et du coup, il va, oui, y avoir moins de demandeurs d'emploi qui vont pouvoir ouvrir un droit. 500 000 personnes devraient être concernées. La façon de calculer les indemnités chômage va aussi être revue. Ce ne sera plus calculé sur les seuls jours travaillés, mais sur le revenu mensuel. Selon l'UNEDIC, la moitié de ceux qui arrivent au chômage devraient être affectés, alors à des niveaux variables. On parle là quand même d'1 200 000 personnes. C'est plus que les données qui circulaient jusque-là dans l'entourage de la ministre du Travail. Au moment de l'annonce de la réforme, c'était il y a une quinzaine de jours. Mais attention, ces chiffres sont quand même toujours à prendre avec des pincettes. Ce ne sont que les premiers calculs, parce que les décrets en tant que tels ne sont pas encore sortis. Mais on s'en rend compte que la volonté de rendre plus efficace l'assurance chômage va fortement peser sur les demandeurs d'emploi.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. On vous retrouve dans un instant pour l'interview écho du soir. On devrait connaître le 18 juillet prochain les contours de la réforme des retraites. C'est à cette date que Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites, présentera ses recommandations pour la mise en place du système universel. Celle promis par Emmanuel Macron. Europe 1, vous le révélez ce matin, 67% des salariés qui travaillent actuellement en Île-de-France souhaiteraient trouver du travail en région. L'inverse n'est pas vrai, ceux qui travaillent en région en général veulent y rester. C'est le résultat d'une étude réalisée par le site d'offres d'emploi Région Job. Olivier Samin, les raisons sont nombreuses, le coût du logement à Paris, le temps passé dans les transports ainsi que la qualité de vie.
Oui, alors l'attirance des salariés de Paris et l'Île-de-France pour la province n'est pas nouvelle. Le site Région de Job, qui prend la température chaque année en analysant les souhaits de mobilité de ses quelques 7 millions d'utilisateurs, le site Région de Job fait clairement apparaître cette tendance qui trouve son explication dans la recherche à la fois d'un meilleur cadre de vie et d'un coût de la vie moins élevé, coût du logement notamment. Mais ce qui frappe cette fois-ci, c'est l'augmentation assez nette des velléités de départ, plus 8 points en un an, alors que parallèlement, vous l'avez dit, les salariés qui travaillent en province se sentent bien là où ils sont et ils ont moins envie que par le passé de changer de région. Alors, quand on regarde les régions les plus attractives, eh bien c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui arrive en tête devant la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout en bas du tableau, on trouve la Bourgogne-Franche-Comté et juste au-dessus, l'Île-de-France.
Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Si vous souhaitez vous faire dépister du VIH sans pour autant avoir une ordonnance de votre médecin, c'est désormais possible. En tout cas, si vous habitez à Paris ou dans les Alpes-Maritimes, l'opération s'appelle VIH Test et son objectif, c'est évidemment de faciliter l'accès au dépistage pour accélérer la fin de l'épidémie de sida. Car il faut savoir qu'en 2017, en France, 6400 personnes ont encore découvert leur séropositivité. Les précisions de Mélanie Gomez.
Dans n'importe lequel des 170 laboratoires d'analyse parisiens ou dans ceux de toutes les Alpes-Maritimes, on peut désormais réaliser un test de dépistage sans ordonnance. Pas besoin non plus de prendre rendez-vous, ni d'avancer aucun frais. En donnant simplement votre carte vitale ou même juste votre numéro de sécu, tout sera automatiquement pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Ensuite, pour ceux qui auraient un test positif, tout est prévu aussi. Ils seront dirigés vers une consultation spécialisée en moins de 48 heures. L'objectif, c'est d'en finir au moins avec cette épidémie cachée en France, encore trop de séropositifs découvrent leur infection des années après, précise Eve Plenel, directrice de Paris Sans Sida.
La moitié des personnes qui découvrent leur séropositivité en France chaque année, c'est au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est tard pour les personnes en premier lieu, parce que plus tôt on est dépisté, plus vite on a accès au traitement, plus vite l'espérance de vie est restaurée. Et puis surtout, une fois qu'on est dépisté et qu'on a accès au traitement, on ne transmet pas le virus à ses partenaires.
Alors pour le moment, cette offre dans les labos à Paris et les Alpes-Maritimes, c'est une expérimentation. Elle va durer un an et si c'est concluant, elle sera généralisée dans toute la France d'ici 2021.
Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe. d'Europe 1. À deux jours du départ du Tour de France depuis Bruxelles sur les terres d'Eddy Merckx, c'était la présentation officielle des équipes ce soir. Vous y avez assisté, Axel May. Il y avait un absent de marque, Axel, le Britannique Chris Froome.
Oui, mais avant de parler des équipes, il y a eu ce moment d'émotion lorsque le roi Eddy Merckx, qui a remporté le premier de ses 5 Tours de France il y a 50 ans, en 1969, a été ovationné par le public réuni sur la grande place de Bruxelles.
C'est à vous de jouer, mesdames et messieurs. Eddy Merckx.
Avant cet hommage à Eddy Merckx, les 22 équipes se sont succédées sur le podium installé sur la Grand Place, un moment qui a marqué l'albigeois Lilian Calmejane, vainqueur d'étape lors de son premier Tour de France en 2017.
Le départ sur cette place, j'avoue que c'est de mes trois départs, c'est peut-être celui que je retiendrai le plus en termes de présentation. C'est vraiment une place magnifique, c'est grandiose. Qu'on soit ici en Belgique, sur une terre de vélo, c'est aussi une bonne chose.
Alors, il y avait des absents à cette présentation, à commencer par le premier d'entre eux, Chris Froome. Le Britannique espérait égaler Eddy Merckx en remportant un 5e Tour de France, mais il se remet de plusieurs fractures après une terrible chute survenue il y a 3 semaines sur le Critérium du Dauphiné. L'an dernier, lors de la présentation des équipes, il avait été sifflé en Vendée. Cette fois, la petite histoire ne dit pas s'il a regardé cette présentation depuis son lit de convalescence.
Merci Axel May à Bruxelles pour Europe 1. Et puis, ça se passe en ce moment dans la cour du Palais des Papes, spectacle d'ouverture du 73e Festival d'Avignon, architecture de Pascal Rambert. Thierry Geffrotin, une pièce écrite pour Jacques Weber qui participera pour la première fois à ce festival.
Eh oui, alors vous l'imaginez peut-être dans ses petits souliers avec un peu d'anxiété, un soupçon de trac. Eh bien non, Jacques Weber baigne dans une douce euphorie. Et j'ai pu le vérifier il y a quelques minutes en parlant avec lui au téléphone.
Mais je veux pas me mettre la pression, quoi. Voilà, je ne veux qu'être à la joie de jouer. Voilà. C'est vrai que c'est extrêmement joyeux pour moi. C'est en effet extrêmement touchant. Le lieu est très très fort. Il est plus fort que tout. Et on doit arriver avec le cœur et les mains nues et on doit faire notre travail.
Jacques Weber, c'est quand même un monument du théâtre français. Pourquoi il n'est jamais venu à Avignon ?
Eh bien, pendant longtemps, il a trouvé le lieu, la cour d'honneur, donc démesurée. Il l'a comparé à une grenouille qui se prenait pour un bœuf. La salle intime imaginée par Jean Villard était devenue colossale, c'est le mot qu'il emploie, avec les difficultés inhérentes au plein air, sans sonorisation. Mmh. Aujourd'hui, les aménagements ont été faits, la jauge est moins importante et Jacques Weber se sent bien sur cette scène. Il est prêt.
Alors, qu'est-ce qu'il va jouer en deux mots ? Quelle pièce ?
Eh bien, Architecture, c'est son titre. C'est une pièce de Pascal Rambert, écrite pour Jacques Weber. L'histoire, le naufrage d'une famille d'intellectuels entre la Première Guerre mondiale et l'Anschluss, avec autour de Jacques Weber, Emmanuel Béard, Denis Podalydès, Anne Brochet, entre autres. La pièce qui ouvre ce 73e Festival d'Avignon, c'est vraiment un événement.
Merci Thierry Geffrotin. Et le Festival d'Avignon se tiendra jusqu'au 23 juillet. On jette un coup d'œil à la météo avec vous, Elena Morna, et ce vendredi sera la plus belle journée de la semaine.
Et la plus chaude, Valentine. Le mercure s'emballe à nouveau avec des pointes à 38 degrés demain après-midi à Cahors et Toulouse, 37 à Montauban et Avignon, 36 à Clermont-Ferrand et Nîmes, 35 à Poitiers, Bordeaux et Lyon, 34 à Nantes, 33 à Grenoble, Montpellier et Marseille, 31 à Paris, Strasbourg et Biarritz, 29 à Brest et Charleville-Mézières, 27 à Lille, 24 au Havre. Chaud et beau. Alors, faudra patienter le milieu de matinée pour voir le soleil sur le littoral landais et celui du Roussillon parce qu'on aura des entrées maritimes le matin et toujours quelques averses en soirée sur les reliefs du sud. Samedi, là, ce sera un peu moins beau, hein, sauf sur les régions méditerranéennes qui resteront sous le soleil. Ce sera nuageux sur les autres régions du sud de la Loire et reprise des orages entre le Poitou, l'Auvergne, le centre, jusqu'au Jura et aux Alpes. On aura des éclaircies au nord de la Loire. Et puis dimanche, retour des éclaircies sur le Poitou-Charentes et le Limousin. Mais cette fois, ce sera plus nuageux sur les bords de Manche jusqu'aux Ardennes.
Merci Elena Morna.
Europe 1.
Allez, dans un instant, on fait un point sur les marchés financiers. Comme chaque soir, ce sera juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes qui organise ce week-end les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit. Valentine Desjeune.
Et on fait un point à présent sur les marchés financiers avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Valentine.
Et Wall Street est resté fermé aujourd'hui pour cause de jours fériés aux États-Unis. Et à Paris, la séance a été très calme.
Hein. Oui, une séance peu animée, hein, comme souvent quand les investisseurs américains sont absents. Wall Street est resté fermé à cause de la fête nationale aux États-Unis. Et le CAC 40 termine donc quasiment stable. On est sur une hausse symbolique de 0,03%, 5621 points. Le CAC qui reste tout de même au plus haut de l'année avec des investisseurs qui espèrent toujours une politique monétaire accommodante de la part des banques centrales avec des taux bas. Du côté des valeurs, Valeo monte de 2,2%. L'équipementier automobile a déclaré à l'agence Reuters avoir engrangé 500 millions d'euros de commandes, des commandes auprès de quatre grands groupes automobiles pour des capteurs de voitures autonomes LIDAR. Le LIDAR, c'est un système de radar infrarouge dans lequel Valeo a beaucoup investi. Très belle séance aussi pour Capgemini, plus 2%, et ST Microelectronics, plus 0,7%, deux valeurs qui profitent d'une note positive d'analyste.
Et les valeurs bancaires se sont distinguées à Paris.
Oui, les banques sont en hausse malgré la persistance de taux obligataires négatifs. Elles profitent de la trêve entre la Commission européenne et l'Italie. Bruxelles a renoncé à ouvrir une procédure disciplinaire sur sa dette. C'est donc du vert pour Société Générale, plus 0,4%, Crédit Agricole, plus 1,8%, et BNP Paribas, plus 1,1%. Le mauvais élève du jour, c'est Figeac Aéro, en repli de plus de 3%. L'équipementier aéronautique a vu son bénéfice net chuter sur l'exercice 2018-2019.
Et l'euro termine en hausse sur le marché des devises.
Plus 0,1% ce soir pour l'euro, qui se négocie contre 1,1286 $. Et ailleurs, en Europe, la séance a été calme sur les marchés, comme à Paris. Londres gagne 0,1%, tandis que Francfort cède 0,1%, Bruxelles plus 0,4%, Madrid et Amsterdam plus 0,1%. Milan gagne tout de même 1%, au plus haut depuis 11 mois, avec l'envolée des valeurs bancaires. Et puis le CAC 40 est stable ce soir à 5 621 points.
Et merci Claire Lemaître. Et c'est l'heure de l'invité éco, Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, qui organise ce week-end les rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
Bonsoir Jean-Hervé Lorenzi.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête du Cercle des économistes et vous organisez, à compter de demain vendredi, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 19e édition, et c'est devenu tout simplement le plus grand événement économique de France, surtout ce week-end. Alors le thème cette année, c'est renouer avec la confiance. On l'a complètement perdu aujourd'hui, c'est la défiance à tous les étages.
C'est la première fois qu'en réalité on a choisi le sujet le soir même de l'édition précédente. C'était, je crois, le 10 juillet de 2018. Pourquoi ? Parce que le thème précédent, c'était les métamorphoses du monde. Et qu'on s'est aperçu que toutes ces métamorphoses qui concernent la technologie, qui concernent l'écologie, qui concernent le contrat social, les inégalités, qui concernent le vieillissement, qui concernent tout ce qui, en réalité, était nos référents, ces métamorphoses les mettent non seulement à mal sur un plan économique, donc c'est là on retrouve un peu notre tradition d'économiste, mais surtout le mettent à mal sur, au fond, les convictions, les référents que nous avons sur nos sociétés, et que derrière tout ça, c'est tout ce qui faisait notre société est remis profondément en doute, non pas tellement sur l'instant, c'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui, mais c'est plutôt pour l'avenir. Les gens n'ont aucune confiance dans ce que pourrait être l'avenir.
Mais on a aussi surtout l'impression qu'il n'existe aujourd'hui plus aucun sujet de consensus, quasiment au niveau mondial. Et c'est vrai si on redescend au niveau des pays. Si on prend par exemple l'écologie, on l'a vu là encore au G20 le week-end dernier au Japon. C'est un sujet d'affrontement à tous les étages.
Oui, en réalité, c'est que il y a deux faiblesses. Trois faiblesses. La première, c'est une faiblesse scientifique, c'est que il y a des gens qui ne croient pas. On a eu les vaccins, l'histoire des vaccins en France. Il y a quand même un doute fondamental qui est alors très très profond, qui n'est pas que français, loin d'être français. Le deuxième, c'est que les gens n'ont aucune confiance dans les institutions qui, au fond, promeuvent telle ou telle politique. Et le troisième aspect, sur l'affaire environnementale, si on voulait respecter la COP21. On n'a pas d'idée de ce que ça coûterait. Tout à l'heure, je regardais un site qui annonçait que le non-respect de la COP21, c'était 80 millions de chômeurs de plus. 80 millions. Pourquoi 80 millions? Pourquoi pas 118? Personne n'en sait rien. Donc on est dans une espèce de flou généralisé. Et ça, je pense que l'ensemble des habitants de cette planète le ressentent très profondément et donc ont un doute sur ce qu'on leur dit, ce qu'on leur propose et sur la réalité des politiques menées.
Et pour autant, la confiance, c'est quelque chose d'indispensable en économie. Sans confiance, il ne peut pas y avoir de création d'emplois, il ne peut pas y avoir d'investissement. En tout cas, il y en aurait moins. C'est pour ça que c'est aussi indispensable de renouer avec la croissance, pour renouer avec un avenir ?
On est très lié à des événements géostratégiques comme on n'a pas été depuis fort longtemps. Quand j'étais jeune, il y avait l'Union soviétique, les États-Unis, plus les classes moyennes qui fonctionnaient, le Fordisme, tout ça marchait du feu de Dieu. C'était peinardou, tranquillou. Il y avait de temps en temps une petite crise pour agrémenter et permettre à des journaux de fonctionner. Mais sur le fond, tout ça est fini. Donc l'économie mondiale est en train de ralentir. Elle va continuer son ralentissement. On est quand même aussi très, très lié à des phénomènes politiques. Prenez l'exemple des États-Unis. Ils ont une croissance de 8, de 9. Elle est liée à leur qualité finalement propre, mais aussi et fondamentalement au déficit budgétaire. Quelle est la stratégie de Trump par rapport à ça ? Jusqu'où il peut continuer à avoir ses déficits ? Voilà le genre de questions qu'on peut se poser.
C'est compliqué de retrouver la confiance, mais c'est vrai qu'il y a aussi des zones d'incertitude qui nous font à tous peur. C'est-à-dire, par exemple, les transformations que le digital vont apporter. Vous venez de sortir un livre, « La nouvelle résistance face à la violence technologique ». Le titre lui-même fait peur. La résistance face à la violence technologique.
C'est la réalité. Quand, première étape, vous avez, on décrit la défiance. Elle est générale et ça peut se vérifier. Deuxième chose, apparaissent des lieux qui permettent aux gens qui ont perdu leur référence de se retrouver ou d'avoir l'impression de se retrouver. C'est l'extrémisme religieux et c'est la technologie. Je veux dire, l'idée que 20 sociétés dans le monde, qui par ailleurs sont tout à fait honorables, mais 20 sociétés décident pour nous ce que doit être l'avenir, c'est absolument stupéfiant et ça mérite résistance. Troisième sujet, il y a résistance, ça c'est l'histoire, il y aura des phénomènes de rejet, et on commence à voir apparaître des valeurs, les valeurs nouvelles qui fonderont lors ce qu'on pourrait appeler le développement du 21e siècle, mais un peu plus apaisé. Et la quatrième étape, c'est cette étape où, en réalité, il y a un socle de valeurs qui permet au dispositif de fonctionner.
Justement, c'est intéressant ce que vous avez déjà regardé. Il y a 10 ans, les panels, et celui de cette année, il y a 10 ans, il y avait peu ou pas beaucoup de femmes, en tout cas pas dans les dernières sessions qui sont les plus importantes. Vous considérez qu'aujourd'hui, c'est indispensable aussi de faire attention à cela ?
Non seulement c'est indispensable, mais c'est malheureusement encore, on est encore loin de l'affaire.
Ça, au-delà, c'est vrai, vous êtes loin de la parité. Encore.
J'allais dire un peu de notre coup marketing aussi, c'est-à-dire que la session finale, c'est uniquement des femmes, il y a un petit côté. Alors il se trouve que par ailleurs, elles sont incroyables, donc moi je vais écouter Sabine Bouchebé, mais on manque encore, on doit être à 30% de femmes, il faut arriver à une parité, ça prendra un peu de temps.
Si on parle de femmes, le MEDEF a créé un scandale en ayant invité Marion Maréchal à ces rencontres que eux vont tenir à la fin de l'été. Vous auriez invité Marion Maréchal et vous l'auriez maintenue malgré la polémique ?
Je crois que je ne l'aurais pas trop fait parce que, je ne sais pas, c'est un peu une réaction de, peut-être... c'est pas une réaction universitaire, parce que les universitaires ne sont pas comme ça, et à ma connaissance, elle n'a pas commis de crime. Donc il ne faut pas non plus... Je trouve cette diabolisation est totalement inefficace en plus. Mais si j'avais décidé, je ne me serais pas fait impressionner par telle ou telle belle âme qui considère que ce n'est pas bien. Mais moi, je suis très content qu'on ait... Alors, politiquement, on a 3 ministres, 3 opposants de gauche, 3 opposants de droite, et... puisqu'il n'est plus de gauche ni de droite, maintenant Jadot et un écolo.
Et en tout, vous avez une vingtaine de ministres, si on regarde même au niveau mondial.
Voilà, et on a une vingtaine de ministres.
Et bien, ce sera à suivre en tout cas ce week-end. Un grand merci Jean-Hervé Lorenzi à la tête du Cercle des économistes qui organise donc à compter de demain les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Nous, on se retrouve demain soir, 22h20 sur Europe 1.
À demain Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un coup d'œil à la une de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? La revue de presse à suivre sur Europe 1. À tout de suite. Et on jette un coup d'œil à la presse de demain, on en parlait au début du journal. Prise de bac à la une de Libération, à la veille des résultats, Jean-Michel Blanquer est resté ferme face à la grève des notes, braquant un peu plus les enseignants qui justifient leur action par l'absence de dialogue. Le baccalauréat rude épreuve, c'est également à la une de CNews. Tout autre chose à la une de l'Humanité, on l'a également évoqué dans le journal, les féminicides et ce titre. Comment stopper l'hécatombe alors que depuis le début de l'année, 72 femmes sont mortes, assassinées par leurs conjoints. Les familles des victimes manifestent samedi. Dans la presse économique et financière, marché financier, l'ivresse des sommets à la une de l'opinion. Alors que hier, les trois grands indices de Wall Street ont inscrit de nouveaux records. Dans les échos, gros plan sur l'épargne, radiographie d'une passion française. Malgré des taux d'intérêt au plus bas, les ménages continuent d'épargner massivement. Et puis La Croix, titre sur les Grecs qui veulent tourner la page. Les élections législatives dimanche pourraient entraîner la défaite du Premier ministre de gauche Alexis Tsipras, lâché par les classes moyennes. Voilà pour les titres de la presse. Très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Dans un instant, vous retrouvez Sophie Peters pour la libre antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Valentine.
Et pour vous joindre, c'est le 39 21.
Absolument, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.